Voici une anecdote trop drôle pour ne pas être partagée. Et je la raconte maintenant en public depuis des années. C'est ma femme qui fait pratiquement toutes nos courses. Elle dit qu'il n'y aurait jamais un légume dans la maison sans ça. Mais quelquefois, elle m'envoie faire des achats en urgence. J'étais donc au supermarché du coin un après-midi, en mission pour rapporter des piles et une poêle anti-adhésive. Comme je déambulais dans l'allée des ustensiles de cuisine, m'étant déjà arrêté pour quelques autres produits d'absolue nécessité, beignets à la cannelle et chips de pommes de terre, une femme a tourné au bout du rayon, conduisant un chariot motorisé. C'était l'archétype de la retraitée de Floride, 80 ans environ, permanente impeccable et plus tannée qu'un soulier en cuir de cordoue. Elle m'a regardé, a détourné les yeux, avant d'y regarder à deux fois. « Je vous connais, m'a-t-elle dit. Vous êtes Stephen King. Vous écrivez ces histoires effrayantes, là. C'est très bien, certaines personnes aiment ça, mais pas moi. Moi, j'aime les histoires exaltantes, comme la rédemption de Shawshank. Celle-là aussi, c'est moi qui l'ai écrite, j'ai dit. Non, ce n'est pas vous, m'a-t-elle dit. Et elle a continué son chemin. Ce que je veux dire par là, c'est que vous écrivez des histoires effrayantes et vous êtes comme la fille qui vit dans le camp de caravane à la périphérie de la ville. Vous avez une réputation. Moi, ça me va. Les factures sont payées et je continue à m'amuser. Comme dit le dicton, tu peux m'appeler de n'importe quel nom pourvu que tu m'appelles pas en retard pour le dîner. Mais le terme de genre n'a que peu d'intérêt pour moi. Certes, j'aime les histoires d'horreur. J'adore aussi le polar, les contes à suspense, les histoires de marins, les romans littéraires classiques et la poésie, pour n'en citer que quelques-uns. J'aime aussi lire et écrire des histoires que je trouve drôles. Et cela ne devrait surprendre personne, car humour et horreur sont des frères jumeaux ou des sœurs siamoises. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu un gars évoquer une compétition de feux d'artifice en forme de course aux armements sur un lac du Maine, et la nouvelle qui suit m'est venue à l'esprit. Et s'il vous plaît, n'allez pas la taxer de couleur locale, ok? Voilà bien un autre genre dont je n'ai que faire. Feu d'artifice imbibé. Déposition de M. Alden McCausland, commissariat de police du comté de Castle. Prise par Andrew Clutterbuck, chef de brigade. En présence d'Ardel Benoît, officier ayant procédé à l'arrestation. 11h15, 13h20. 5 juillet 2015. Ça oui, on peut dire comme Mans et moi, on en a passé du bon temps à boire et à lézarder là-bas au camp, après la mort de papa. Il n'y a aucune loi contre ça, pas vrai? Si on prend pas le volant, je veux dire. Et ça, on l'a jamais fait. Faut dire aussi qu'on pouvait se le permettre, vu qu'on était devenu ce qu'on peut appeler des rentiers. À quoi on se serait jamais attendu, papa ayant été charpentier toute sa vie. Il se disait charpentier stylé, aimant de rajouter, pas très stylé mais très distillé. C'était sa petite blague à elle. Mans travaillait chez Royce, le fleuriste de Castle Street, mais à plein temps seulement en novembre et décembre. Experte pour confectionner ses couronnes de Noël qu'elle était, et pas mauvaise non plus pour les couronnes funéraires. Elle a fait celle de papa, vous savez, avec un beau ruban jaune qui disait « Combien nous t'avons aimé ». Petit côté biblique, vous trouvez pas? Les gens ont pleuré en voyant ça, même ceux à qui papa devait de l'argent. Quand j'ai fini le lycée, je suis allé travailler au garage de Sonny, à équilibrer des roues et faire des vidanges et réparer des pneus crevés. À l'époque, je servais aussi l'essence. Mais naturellement, tout ça c'est du self-service à présent. Je vendais un peu d'herbe aussi, autant l'admettre. Je l'ai plus fait depuis des années, donc je présume que vous pouvez pas m'inculper pour ça. Mais dans les années 1980, c'était un bon petit business bien rentable, surtout par ici. Manquais jamais de sous pour aller danser les vendredis et samedis soirs. J'apprécie la compagnie des femmes, mais je me suis jamais laissé passer la bague au doigt, du moins jusqu'ici. J'imagine que si j'avais quelques ambitions, une serait d'aller voir le Grand Canyon, et une autre de rester un célibataire endurci, comme on dit. Moins de problèmes comme ça. En plus, faut que je garde un œil sur Mans. Vous savez ce qu'on dit, que la meilleure amie d'un garçon, c'est ça. Je vais y venir, Ardel, mais si tu veux le fin mot de l'histoire, il faut que tu me laisses la raconter à ma façon. S'il y a bien quelqu'un qui devrait avoir un peu de compassion pour laisser raconter toute l'histoire, c'est bien toi. Quand on était à l'école ensemble, tu pouvais jamais la fermer. Langue bien accrochée au milieu et bien pendue sur les côtés, comme disait Madame Fitch. Tu t'en rappelles? Cours moyen 1. Quelle énergumène celle-là. Tu te souviens la fois où t'avais mis du chewing-gum au fond de sa chaussure? Ha! Où que j'en étais, Au camp, hein? Là-bas sur le lac Abenaki. C'est rien qu'un bungalow de 3 pièces avec un bout de plage et un vieux ponton. Papa l'a acheté en 91. Je crois que c'était quand il a touché un petit dividende suite à un boulot quelconque. Il avait pas assez pour payer la compte, mais quand j'ai rajouté le revenu de mes plantes médicinales, ça a fait pencher la balance. C'est pas un endroit de luxe, ça, je suis prêt à l'admettre. Man l'appelle la baie des moustiques, et on n'y a jamais fait beaucoup de réparations. Mais papa s'est bien tenu au paiement des mensualités. Et quand il tirait la langue, Man et moi, on compensait. Elle râlait de devoir lâcher son argent des fleurs, mais jamais trop fort. Elle avait aimé y aller depuis le début, même s'il y avait des bestioles et des fuites dans le toit et tout ça. On s'installait sur le ponton, on sortait le pique-nique et on profitait de la vie. Déjà à l'époque, Man disait pas non à un pack de 6 ou à une bouteille de brandy au café, même si en ce temps-là, elle s'abstenait de boire en dehors des week-ends. On a fini de tout payer en l'an 2000. Et c'est pas étonnant, hein? C'est du côté ville du lac, le côté ouest. Et vous savez tous les deux comment c'est là-bas, marécageux, plein de joncs et d'épineux. La rive est du lac est plus agréable, avec toutes ces grandes baraques que les estivants se croient obligés d'avoir. Et j'imagine qu'ils regardaient notre bidonville en face, rien que des cabanes en planches, des bungalows et des caravanes, en se disant quel dommage quand même que les gens du pays doivent vivre comme ça, sans même un court de tennis à leur nom. Mais s'ils pouvaient penser ce qu'ils voulaient, on était aussi bien que n'importe qui. Papa pêchait un peu au bout du ponton et Man faisait cuire ce qu'il attrapait sur notre cuisinière à bois et après 2001, ou peut-être que c'était 2002, on a eu l'eau courante et plus besoin de trotter jusqu'au cabinet extérieur en pleine nuit. Aussi bien que n'importe qui, je vous dis. Une fois l'endroit fini de payer, on pensait qu'il y aurait un peu d'argent pour des réparations, mais apparemment, il n'y en avait jamais. La façon qu'il disparaissait, c'était un mystère. Parce qu'à l'époque, les prêts bancaires pour les gens qui voulaient faire construire, c'était pas ce qui manquait, et papa avait du travail régulier. Quand il est mort d'une crise cardiaque, alors qu'il travaillait sur un chantier à Harlow, en 2002 c'était, Man et moi, on s'est dit que pour nous c'était la dèche assurée. Mais on va s'en sortir, elle m'a dit, et si c'était au pute qui claquait son surplus, je veux pas le savoir. Elle a dit aussi qu'il faudrait qu'on vende notre camp au lac Abenaki, si on trouvait quelqu'un d'assez fou pour l'acheter. On fera visiter au printemps, elle a dit, avant que les mouches noires éclosent. Ça te va, Alden? J'ai dit que ça m'allait, et je me suis même attelé à rénover. Mais je suis pas allé plus loin que poser des bardeaux neufs et remplacer les planches les plus pourries du ponton, parce que c'est là qu'on a eu notre premier coup de chance. Man a reçu un coup de téléphone d'une compagnie d'assurance de Portland, et elle a découvert pourquoi il n'y avait jamais d'argent de reste, même après avoir fini de payer le bungalow et le petit hectare sur lequel il est posé. C'était pas les putes. Papa avait placé le surplus dans une assurance vie. Peut-être qu'il avait eu ce qu'on appelle une prémonition. Des choses plus étranges se produisent dans le monde tous les jours, comme des pluies de grenouilles ou ce chat à deux têtes que j'ai vu une fois à la foire du comté de Castle. M'a filé des cauchemars celui-là, ou bien le monstre du Loch Ness. En tout cas, on a eu 75 000 $ qu'on n'attendait pas, qui nous sont tombés du ciel directement dans notre compte à la Key Bank. Ça, ça a été le coup de chance numéro un. 2 ans après celui-là, 2 ans presque jour pour jour, voilà-t-il pas le coup de chance numéro 2. Man avait pour habitude de s'acheter un billet à gratter à $5 une fois par semaine après avoir fait ses courses chez Normie au Super Shop. Pendant des années, elle a ffait ça sans jamais gagner plus de $20. Et puis, un jour, en 2004, elle est tombée sur 2x27, deux cases superposées sur un billet à gratter de Big Main Millions. Et d'où Jésus à bicyclette, elle s'est aperçue que cette paire valait 250 000 $. J'ai cru que j'allais me pisser dessus, elle m'a dit. Ils ont mis sa photo dans la vitrine du Super Shop. Vous vous en souvenez peut-être, elle y est restée 2 mois au moins. Un joli petit quart de million, enfin plutôt 120 000 après avoir payé tous les impôts, mais quand même. On les a investis dans Sunny Oil, parce que Man disait que le pétrole serait toujours un bon investissement, du moins, jusqu'à qu'il n'y en ait plus, mais le temps qu'il n'y en ait plus, on sera plus là, nous non plus. Je pouvais que tomber d'accord avec ça, et ça a bien marché. C'était les années fastes en bourse, comme vous vous en souvenez peut-être, et c'est là qu'on a commencé notre vie de rentier. C'est là aussi qu'on s'est sérieusement mis à picoler. On picolait déjà un peu à la maison en ville, mais pas tellement. Vous savez comment les voisins, ça aime cancaner. C'est pas avant d'avoir quasi déménagé à la baie des moustiques qu'on s'est réellement mis au boulot. Man a laissé tomber pour de bon la boutique de fleurs en 2009. J'ai dit « adios amigos » aux pneus crevés et aux tuyaux d'échappement percés un an plus tard environ. Après ça, on n'avait plus tellement de raison d'habiter en ville, du moins jusqu'à l'hiver. Pas d'isolation au bungalow, vous comprenez. En 2012, quand nos ennuis avec Cérital de l'autre côté du lac ont commencé, on y descendait une semaine ou deux avant Memorial Day et on y restait jusqu'à Thanksgiving à peu près. Mon a pris des kilos, dans les 70 je dirais. Et je présume qu'elle en doit une grande partie au brandy au café. On n'appelle pas ça « fat ass in a glass » pour rien. Mais elle disait qu'elle avait jamais été Miss Amérique pour commencer, et même pas Miss Maine. Je suis le genre de fille « bottelée » qu'elle aimait bien dire. Et ce que le Doc Stone aimait bien lui dire, du moins jusqu'à ce qu'elle arrête d'aller le voir, c'est qu'elle allait être le genre de fille morte avant l'âge si elle n'arrêtait pas le brandy au Café Allen's. « T'es un arrêt cardiaque ambulant, Hallie », qu'il lui disait. « Ou une cirrhose. T'as déjà un diabète de type 2, c'est pas suffisant pour toi ?»« Je vais pas te le dire à demi-mot, Hallie. Tu dois arrêter de boire. Puis tu dois aller au AA. » « Phew !» m'a dit en rentrant. « Après un savon comme ça, j'ai besoin d'un remontant. Tu m'accompagnes, Alden ?» J'ai dit qu'un serait pas de refus, alors on a installé nos chaises longues au bout du ponton, comme on faisait le plus souvent, et on s'est royalement torché en regardant le soleil se coucher. Aussi bien que n'importe qui, et mieux que beaucoup. Et qu'est-ce que vous dites de ça? On mourra tous de quelque chose, j'ai pas raison? Les docteurs ont tendance à oublier ça, même Mans le savait. Ce fils de pute macrobiotique a probablement raison, elle m'a dit pendant qu'on s'en retournait au bungalow en titubant, autour de 10 heures du soir c'était, et tous les deux bouffés au sang par les moustiques, malgré tout l'insecticide qu'on s'était aspergé. Mais au moins, quand je partirai, je saurai que j'ai vécu. Et puis je fume pas, tout le monde sait que c'est ça le pire. Ne pas fumer devrait me faire durer encore un moment. Mais toi, Arden, qu'est-ce que tu vas devenir après ma mort, quand il y aura plus d'argent? Je sais pas, j'ai dit. Mais c'est sûr que j'aimerais bien voir le Grand Canyon. Elle a ri et m'a filé un coup de coude dans les côtes en disant « Ça c'est bien mon fils. T'attraperas jamais un ulcère à l'estomac avec cette attitude. Et maintenant, allons faire dodo. » Ce que nous avons fait, pour nous réveiller autour de 10 heures le lendemain matin et commencer à soigner nos gueules de bois aux environs de midi avec des Muddy Rooters. Je m'inquiétais pas autant que le doc pour Mans. Je me disais qu'elle s'amusait trop pour clamser. Pour le coup, elle a survécu au Doc Stone qui a été tué un soir en voiture sur Pigeon Bridge par un chauffard ivre. On peut appeler ça de l'ironie, de la tragédie ou juste la vie. Je suis pas un philosophe, moi. J'ai juste été content que le doc ait pas eu sa famille avec lui. J'espère qu'il était à jour avec ses primes d'assurance. Bon, ça c'est le contexte. C'est maintenant qu'on en vient aux choses sérieuses. Les Massimo et cette putain de trompette, pardonnez mon français. La course aux armements du 4 juillet, comme je l'appelle, et même si ça n'a vraiment pris des proportions qu'en 2013, ça a véritablement commencé l'année d'avant. Les Massimo étaient propriétaires juste en face de nous, sur l'autre rive du lac, une grande maison blanche avec des colonnades et de la pelouse en pente, jusqu'à leur plage de fin sable blanc, pas en gravier comme la nôtre. Cette baraque-là devait bien faire une douzaine de pièces, 20 ou plus si on compte le pavillon des invités. Ils appelaient leur propriété le camp des 12 pins. À cause des sapins qui entouraient la maison principale et l'isolaient un peu comme une forteresse. Un camp. D'où Jésus, cette baraque était un manoir. Et oui, ils avaient un court de tennis, de badminton aussi, et un espace sur le côté pour lancer des fers à cheval. Ils arrivaient vers la fin juin et restaient jusqu'à Labor Day, puis ils fermaient cette saloperie pour le reste de l'année. Un endroit de cette taille, et ils le laissaient vide 9 mois sur 12, j'arrivais pas à y croire. Mans y arrivait, elle. Elle disait qu'on était des riches par accident, mais que les Massimo étaient des vrais riches. Sauf que ce sont des biens mal acquis, Alden, elle me disait. Et je te parle pas d'un malheureux petit art de plantation d'herbe. Tout le monde sait que Paul Massimo a des connexions. Elle le disait toujours comme ça, en grandes lettres capitales. Paraît que l'argent venait des constructions Massimo. J'ai cherché sur Internet, et il n'y avait pas plus légal, en apparence. Mais ils étaient italiens. Et les constructions Massimo étaient basées à Providence, sur Rhode Island. Et vous êtes flic, alors vous saurez faire les connexions et tirer les conclusions. Comme Mans avait coutume de dire, quand on ajoute 2 et 2, on n'obtient jamais 5. Ils utilisaient toutes les pièces de la Grande Maison Blanche quand ils étaient là, ça je le reconnais. Et celles du pavillon des invités aussi. Mans avait coutume de les regarder depuis notre côté du lac, et de lever sa sombrero ou sa Muddy Rooter à leur santé, en disant que les Massimo valaient moins cher à la douzaine. Il savait s'amuser, je leur accorde ça. Il y avait des soirées barbecue, des batailles de pistolets à eau et des jeunes ados qui pilotaient des jet skis. Il devait bien en avoir une demi-douzaine de ces engins, dans des couleurs si éblouissantes qu'elles vous brûlaient les yeux si vous les regardiez trop longtemps. Le soir, il jouait au touch, avec généralement assez de Massimo pour former deux équipes réglementaires de 11. Et ensuite, quand il faisait trop sombre pour voir le ballon, il chantait. Et à entendre comment ils braillaient leurs chansons, souvent en italien, on pouvait dire qu'ils crachaient pas sur la bibine, eux non plus. L'un d'eux avait une trompette, et il soufflait dedans pour accompagner les chansons. Juste « ouah, ouah, ouah », assez pour te faire venir les larmes aux yeux. « Là, rien d'un Dizzy Gillespie », disait Mma. « Quelqu'un devrait tremper cette trompette dans de l'huile d'olive et la lui fourrer dans le cul. Il pourrait péter « God bless America ». Aux environs de 23 heures, il jouait l'extinction des feux et s'était plié pour la nuit. Même si la chansonnette et la trompette avaient duré jusqu'à 3 heures du matin, pas sûr qu'aucun des voisins se serait plaint, vu que la plupart des gens de notre côté du lac prenaient Massimo pour le vrai Tony Soprano. Arrive le 4 juillet de cette année-là, je vous parle de 2012 là. J'avais quelques cierges magiques, 2-3 paquets de pétards Black Cat et 2 bombes cerises. Je les avais achetés à Pop Anderson de Cheery Flea Mart Anderson sur la route d'Oxford. Et c'est pas du mouchardage non plus, sauf si vous êtes con comme des balais, et je sais que vous l'êtes ni l'un ni l'autre. Merde, tout le monde savait qu'on pouvait acheter des pétards au Cheery Flea. Mais Pop vendait que des petits trucs parce qu'à l'époque, les feux d'artifice étaient interdits par la loi. Bref, il y avait tous ces Massimo qui cavalaient partout sur le lac, qui jouaient au football et au tennis, et qui s'amusaient à se tirer le maillot entre les fesses, les petits barbotant près du rivage pendant que les plus grands plongeaient depuis leur ponton mobile. Mon et moi, on était bien installés dans nos chaises longues au bout de notre ponton, avec nos provisions patriotiques étalées à nos pieds. Comme le crépuscule approchait, je lui ai tendu un cierge magique, je l'ai allumé et j'ai allumé le mien sur le sien. Nous les avons agités et tournicotés dans la nuit tombante, et il n'a pas fallu longtemps pour que les petits d'en face les voient et commencent à piailler pour avoir les leurs. Les deux grands-fils Massimo les leur ont donnés et ils nous ont répondu en les agitant aussi. Leur cierge magique était plus gros que les nôtres, et il durait plus longtemps. Et le bout avait été traité avec une espèce de produit chimique qui les faisait changer de couleur, alors que les nôtres étaient juste argentés et dorés. Le petit Rital à la trompette a soufflé « ouah, ouah » comme pour nous dire « voilà à quoi ressemblent les vrais cierges magiques ».« C'est pas grave », a dit Mman. « Leurs cierges magiques sont peut-être plus gros, mais on va tirer quelques pétards, voir s'ils aiment ça ». On les a allumés un par un et lancés de telle manière qu'ils explosent et flamboient avant de toucher le lac. Là-bas, aux 12 pins, les gosses ont vu ça et ont aussitôt réclamé les leurs. Alors quelques hommes Massimo sont allés à la maison et sont revenus avec un gros carton. Il était rempli de pétards. Les plus grands des gosses ont pas tardé à les allumer et à les balancer par paquets entiers. Il devait bien y en avoir 200 en tout, et ça pétaradait comme un tir de mitrailleuse, ce qui faisait paraître les nôtres un peu minables. Et « ouah, ouah » que nous chante la trompette, comme pour nous dire « essayez encore ». Bien, Mackay, me fait Mman, donne-moi une de ces bombinettes cerises que tu gardes sous le coude, Alden. D'accord, je lui dis, mais fais attention, Mman, t'en as déjà quelques-uns dans le nez, et t'as peut-être envie de revoir tous tes doigts demain matin. Passe-m'en juste une, et fais pas ton malin, elle me dit. Je suis pas tombé de la dernière meule de foin, et j'aime pas le son de cette trompette. Je te parie que dès comme ça, ils en auront pas, parce que Pop vend pas aux gars des plats pays. Il voit leur plaque d'immatriculation et prétend qu'il est en rupture de stock. Je lui en ai donné une et je l'ai allumée avec mon briquet. La mèche a crépité et Mman l'a lancée haut dans les airs. La bombe a explosé avec un éclair assez violent pour te faire mal aux yeux et l'écho de la détonation a retenti sur toute l'étendue du lac. J'ai allumé la deuxième et je l'ai balancée comme Roger Clemens. Bang! Et pan, a dit Mman. Maintenant, ils savent qui c'est le patron. Mais là, Paul Massimo et ses deux grands-fils se sont dirigés vers le bout de leur ponton. L'un des deux, grand, beau gosse, costaud, en maillot de rugby, avait cette foutue trompette dans une espèce d'étui à revolver accroché à la ceinture. Ils nous ont fait coucou de la main, puis le père a tendu quelque chose à chacun des fils. Ils ont levé ces quelque chose là en l'air pour que papa puisse leur allumer la mèche. Ils les ont balancés par-dessus le lac, et alors là, bonté divine, pas bang, mais boum! Deux booms plus bruyants que de la dynamite, avec de grands éclairs blancs. « C'est pas des bombes cerises, ça, j'ai dit. Ça, c'est des M80. » Où est-ce qu'ils ont trouvé ça ? A demandé Maman. Pop en vend pas de ça. On s'est regardé et on n'a même pas eu besoin de le dire. Rhode Island. Probable que tu pouvais tout te procurer à Rhode Island. Du moins, si tu t'appelais Massimo, tu pouvais. Le père leur en a tendu un autre à chacun et les a allumés. Puis il s'en est allumé un pour lui. Trois booms assez assourdissants pour terroriser tous les poissons jusqu'à la rive nord du lac Abenaki. J'en doute pas. Puis Paul nous a fait coucou de la main et le petit malin à la trompette l'a dégainé comme un six coups et a soufflé trois longues notes. Waouh, waouh, waouh. Comme pour nous dire « Désolé de vous infliger ça, pauvre minable de Yankees. Vous aurez plus de chance l'an prochain. » Et on pouvait rien y faire. On avait bien un autre paquet de Black Cats, mais ils auraient fait l'effet de mauviettes après ces M80. Et de l'autre côté du lac, toute cette clique de Rita l'applaudissait et poussait des hurrahs. Les filles en bikini sautaient de joie, et ils ont pas tardé à entonner « God bless America ». Maman m'a regardé, et j'ai regardé Maman. Elle a secoué la tête, et j'ai secoué la mienne. Puis elle a dit « L'an prochain ». Oui, j'ai dit « L'an prochain ». Alors, elle a levé son verre. On buvait des bucket luck ce soir-là, comme je me rappelle, et j'ai levé le mien. On a bu à la victoire en 2013, et c'est comme ça que la course aux armements du 4 juillet a commencé. En grande partie, je crois, à cause de cette putain de trompette. Pardonnez mon français. En juin suivant, je suis allé trouver Pop Anderson pour lui expliquer ma situation. Lui dire mon sentiment comme quoi notre honneur du côté ouest du lac devait être défendu. Bon, Ordon, qui me dit, je vois pas en quoi faire péter un peu de poudre à canon à avoir avec l'honneur, mais les affaires sont les affaires, et si tu reviens dans une semaine ou deux, je pourrais avoir quelque chose pour toi. Ce que j'ai fait. Il m'a emmené dans l'arrière-boutique et il a posé une boîte sur son bureau, tout écrite en caractère chinois. C'est un bazar que je vends pas en règle générale, qu'il me dit. Mais ta mère et moi, on se connaît depuis l'école primaire, où elle m'aidait à épeler près du poêle à bois et me faisait réviser mes tables de multiplication. Je t'ai trouvé quelques gros pétards, des M120 qu'on les appelle. Et y a pas beaucoup plus gros dans le rayon fameux boucan, sauf si tu veux commencer à balancer des bâtons de dynamite. Et puis, je t'ai mis une douzaine de ces machins. Il m'a sorti un cylindre planté au bout d'une tige rouge. Ça ressemble aux fusées qu'on tire en bouteille, j'ai dit. Mais en plus gros. Ouais, il me fait. On pourrait appeler ça le modèle de luxe. C'est des pivoines chinoises. Elles montent deux fois plus haut et puis elles pètent en dégageant un putain d'éclair. T'en as des rouges, des violettes, des jaunes. Tu les fiches dans une bouteille de coca ou de bière, juste comme des fusées ordinaires. Mais ensuite, tu te recules bien loin parce qu'en décollant, les amorces vont expédier des étincelles dans tous les sens. Et prends garde d'avoir toujours une serviette à portée de main pour ne pas risquer de déclencher un feu de broussailles. Eh ben, c'est formidable, j'ai dit. Ils vont pas souffler dans leur trompette en voyant ça. Je te vends toute la boîte pour 30 billets, me fait Pop. Je sais, c'est pas donné, mais je t'ai aussi rajouté quelques Black Cats et des fontaines à gâteaux. Tu peux planter celles-là dans des bouts de bois et les envoyer voguer sur l'eau. Terriblement jolies qu'elles sont. M'en dis pas plus, je lui fais. Ce serait encore donné pour le double. Alden qui me répond. Dis jamais ça à un type qui fait le métier que je fais. J'ai rapporté tout ça au camp, et Maman était tellement excitée qu'elle voulait tirer tout de suite un des M120 et une des pivoines chinoises. Je tape rarement du poing sur la table avec Maman, elle serait capable de me le bouffer au ras du poignet. Mais cette fois-là, je l'ai fait. Donne la moitié d'une chance à ces Massimo, et ils nous pondront quelque chose de mieux, j'ai dit. Elle a réfléchi, puis elle m'a embrassé sur la joue et elle a dit. Tu sais, pour un garçon qui a à peine terminé le lycée, t'as la tête sur les épaules, Ordon. Et voilà donc qu'arrive le glorieux 4 juillet 2013. Comme d'habitude, tout le clan Massimo était réuni aux 12 pins, une bonne vingtaine ou plus, et Maman et moi installés dans nos chaises longues au bout de notre ponton, avec notre boîte de friandises posée entre nous et un bon pichet d'Orange Driver. Sans tarder, Paul Massimo s'amène au bout de son ponton avec sa propre boîte de friandises, qui était un peu plus grosse que la nôtre. Mais ça m'a pas inquiété. C'est pas la force du chien dans le combat qui compte, vous savez, mais la force du combat dans le chien. Ces deux grands garçons étaient avec lui. Ils nous ont salués de la main et nous les avons salués de même. La nuit est tombée et Maman et moi avons commencé à tirer des Black Cats. Pas un par un cette fois-ci, mais par paquet entier. Les petits mioches ont fait pareil de leur côté, et quand ils en ont eu assez, ils ont allumé leurs gros cierges magiques et les ont agités et fait tournoyer. Le fils trompettiste a soufflé deux coups, genre pour s'accorder. En entendant ça, une autre troupe de petits gosses a rappliqué sur le ponton des douze pains, et après quelques parlementations, Paul et ses grands garçons leur ont remis à chacun une grosse boule grise et j'ai reconnu des M80. Le son porte bien par-dessus le lac, surtout quand il n'y a pas de vent. Et j'ai entendu Paul dire aux plus petits de faire attention et leur expliquer comment ils devaient les lancer loin dans le lac. Puis Massimo leur a allumé les mèches. Trois des mioches ont réussi à lancer bien haut, bien long, bien beau comme il faut. Mais le plus jeune, devait pas avoir plus de 7 ans, nous en a fait un à la Nolan Ryan et sa boule lui atterrit entre les pieds. Elle a rebondi et lui aurait emporté le nez si Paul l'avait pas tiré brusquement en arrière. Quelques femmes ont hurlé, mais Massimo et ses fils ont failli en tomber à la renverse de rire. J'en juge qu'il devait avoir plus d'un coup dans le nez. Du vin, à tous les coups, vu que c'est ce que Serita aime écluser. Très bien, a dit Maman. Maintenant, on se sort les doigts du cul. Montrons-leur ce qu'on sait faire avant que le grand dadais commence à sonner son foutu clairon. Alors j'ai pris deux M120, qui étaient noirs et ressemblaient à ces bombes qu'on voit parfois dans les vieux dessins animés, de celles qu'allument les méchants pour faire péter les voies ferrées, les mines d'or et tout ça. « Fais attention, Maman, j'ai dit. Si tu lâches pas ce truc-là assez tôt, t'es bonne pour y laisser plus que 4 doigts. T'inquiète pas pour moi, elle me fait. On va leur montrer à ces bouffeurs de spaghettis. » Alors je les ai allumés et on les a lancés, et boum, les uns à la suite des autres. Assez pour faire trembler les fenêtres d'ici à Waterford, j'ai aidé. Mr. Clairhonneur s'est figé, sa trompette en l'air, pas encore arrivée à sa bouche. Quelques-uns des petits mioches se sont mis à pleurer. Toutes les femmes ont accouru sur la plage pour voir ce qui se passait, si c'était un attentat ou quoi. « On les a eus !» s'est exclamé Maman. Et elle a levé son verre à la santé de Mr. Clairhonneur qui était planté là, la trompette à la main et le doigt dans le cul. Enfin, pas exactement, vous voyez, mais façon de parler. Paul Massimo et ses deux fils sont retournés au bout du ponton, et là, ils se sont consultés, rassemblés le dos voûté comme une équipe de joueurs de baseball quand toutes les bases sont pleines. Puis ils sont remontés à la maison tous ensemble. J'ai pensé qu'ils en avaient terminé, et Maman en était certaine. Alors, on a allumé nos fontaines à gâteaux juste pour fêter ça. On les affichait dans des carrés de polystyrène que j'avais découpés dans des emballages récupérés dans la benne à ordures derrière le bungalow, et on les a poussés sur l'eau. C'était déjà cette heure violette, terriblement belle, qui arrive juste avant la nuit noire, avec l'étoile du berger là-haut dans le ciel, et toutes les autres prêtes à s'allumer. Ni jour, ni nuit, et toujours le plus joli moment qui soit, voilà mon avis. Et ces fontaines, elles étaient beaucoup plus que jolies. Elles étaient belles, à voguer là, toutes rouges et vertes, à croître et décroître comme des flammes de bougie avec leurs reflets sur l'eau. Le silence était revenu aussi, et c'était tellement silencieux qu'on pouvait entendre les boum-boum lointains du feu d'artifice qui commençait, là-bas, à Bridgeton. Ça, plus les grenouilles qui se remettaient à coasser le long des rives. Les grenouilles se disaient que tout ce potin et ce chahut étaient finis pour la nuit. Si elles avaient su. Parce qu'au même moment, voilà Paul et ses deux grands garçons qui reviennent sur leur ponton et nous regardent d'en face. Paul avait un machin à la main, presque aussi gros qu'une balle de softball. Et le garçon sans trompette, ce qui faisait de lui le plus malin des deux, à mon avis, l'a allumé. Massimo a pas perdu de temps pour le lancer. Un tir par en dessous, en chandelle, au-dessus de l'eau. Et avant que j'aie pu dire à Maman de se couvrir les oreilles, le machin a pété. Seigneur Dieu! L'éclair a presque illuminé tout le ciel, et la détonation était plus forte qu'un tir d'artillerie. Cette fois-ci, c'est pas seulement les femmes et les filles Massimo qui se sont précipitées pour voir, mais quasiment tous les riverains du lac, nom de Dieu. Et même si la moitié d'entre eux avaient dû pisser dans leur froc quand ce foutu truc avait pété, ils applaudissaient. Vous le croyez, ça? Maman et moi, on s'est regardés parce qu'on savait à quoi s'attendre après. Et ça a pas loupé. Capitaine Clairon a soulevé sa foutue trompette et nous a soufflé un long coup à la figure. Tous les Massimo ont ri et applaudi un peu plus, et tout le monde a fait pareil sur les deux rives. C'était humiliant. Tu peux comprendre ça, Andy? Toi aussi, Ardell? Se faire snober par une bande de Rital de Rhode Island? Pas que je crache sur une assiette de spaghettis de temps en temps, mais tous les jours, à d'autres. Très bien, parfait, a dit Maman en redressant les épaules. Ils peuvent peut-être péter plus fort, mais on a les pivoines chinoises. Voyons voir à quoi elles ressemblent. Mais je voyais bien à sa mine qu'elle avait le sentiment que là aussi, ils risquaient de nous surpasser. J'ai installé une dizaine de bouteilles de bière et de soda le long de notre ponton, j'ai fiché une fusée pivoine dans chacune. Les hommes du clan Massimo nous regardaient, plantés de l'autre côté, puis celui des deux qui se prenait pas pour un pro de la trompette et remontai en courant vers la maison chercher de nouvelles munitions. Pendant ce temps, j'ai caressé chaque mèche de la flamme de mon briquet, bien calme et assuré, et les pivoines chinoises ont décollé les unes après les autres, sans le moindre pépin. Terriblement jolies qu'elles étaient, même si elles n'ont pas duré très longtemps. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tout comme Pop l'avait promis. On a entendu des « oh » et des « ah », y compris de la part des Massimo, je leur accorde ça. Et puis voilà que le jeune homme qui était parti en courant revient en rapportant une autre boîte. Au final, cette boîte était pleine de feux d'artifice tout pareil à nos pivoines chinoises, seulement en plus gros. Chacune avait son petit carré de lancement en carton. On pouvait les voir parce qu'à cette heure-là, il y avait des lumières allumées sur le ponton des Massimo, en forme de torche, mais électrique. Paul a allumé leur fusée et elles ont décollé, en larguant des gerbes d'or dans le ciel deux fois plus grandes et plus éblouissantes que les nôtres. Elles ont scintillé en crépitant comme des mitrailleuses en retombant. Tout le monde a applaudi encore plus fort, et naturellement, moi et Mans, on a fait pareil, sans quoi on serait passé pour des mauvais perdants. Et la trompette a claironné « Waouh, 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 waouh ». Plus tard, quand on a eu tiré tout notre bordel, Mans a arpenté la cuisine dans sa chemise de nuit et ses pantoufles écossaises, avec quasiment des jets de vapeur lui sortant des oreilles. « Où est-ce qu'ils se sont procurés un armement pareil ?» qu'elle demandait. Mais c'était comme qui dirait une question rétropique, et elle m'a pas laissé le temps de répondre. « Par ses copains truands de Rhode Island, je suis sûr, parce qu'il a des connexions, et parce qu'il fait partie de ces gens qui ont besoin de gagner à tous les coups. Ça se voit rien qu'à le regarder. » « Un peu comme toi, Mans, » j'ai pensé, mais je l'ai point dit. Des fois, le silence est d'or, vraiment. Et jamais plus que quand un Mans est bituré au brandy au Café Allen's et plus enragé qu'une poule qu'on a trempée dans l'eau froide pour l'empêcher de couver. Et je hais cette saloperie de trompette. Je la hais avec une passion venimeuse. Là-dessus, je pouvais que tomber d'accord avec elle, et je l'ai fait. Elle m'a attrapé par le bras en m'aspergeant tout le devant du t-shirt avec son dernier verre de la soirée. « L'an prochain, » qu'elle a dit, « on va leur montrer qui c'est le patron l'an prochain. » « Promets-moi qu'on va faire fermer son clapet à cette trompette en 2014, Alden. » J'ai promis d'essayer. C'était le mieux que je pouvais faire. Paul Massimo avait toutes ses ressources à Rhode Island, et moi j'avais quoi? Pop Anderson, propriétaire d'un marché aux puces de bord de route à côté du magasin de chaussures Discount? Je suis quand même allé le trouver le lendemain, et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il m'a écouté en me faisant la politesse de ne pas rire, même si j'ai vu ses lèvres broncher deux ou trois fois. Je veux bien conjecturer que ça avait son côté comique, du moins jusqu'à hier soir, je veux dire. Mais un peu moins quant à Hallie McCausland sur le dos. « Oui, » m'a dit Pop, « je vois bien ce qui a pu rendre ta mère chèvre. Ça a toujours été un démon quand quelqu'un essayait de lui marcher sur les pieds. Mais pour l'amour de Dieu, Alden, c'est rien que des feux d'artifice. Elle s'en rendra compte quand elle sera dégrisée. » « Je crois pas, » j'ai répondu, en m'abstenant d'ajouter que Mans dégrisait plus vraiment. Mais passait juste de pompette à bourrée, puis du sommeil à la gueule de bois, avant de redevenir pompette. Pas que je vaille bien mieux. C'est pas tellement les feux d'artifice que cette putain de trompette, tu vois. Si Mans pouvait lui faire fermer son clapet pour le 4 juillet, je crois qu'elle serait amplement satisfaite. « Bah, je peux rien faire pour toi, » m'a dit Pop. « Y a plein de plus gros feux d'artifice en vente sur le marché, mais je les ferai pas venir. Je tiens pas à perdre ma licence pour commencer. Et ensuite, je tiens pas à voir quelqu'un se blesser. Des ivrognes tirant des feux d'artifice, c'est la recette assurée pour les catastrophes. Mais si t'es vraiment déterminé, je te conseille de monter jusqu'à Indian Island et d'aller parler à un gars là-bas, un grand Penobscot balèze du nom de Howard Gamache, l'Indien le plus balèze de tout le Maine, peut-être même du monde. Il conduit une Harley Davidson et il a des plumes tatouées sur les joues. Il a comme qui dirait des connexions. Quelqu'un avec des connexions. C'était exactement ce qu'il nous fallait. J'ai remercié Pop et noté le nom de Howard Gamache dans mon carnet. Et en avril de l'année suivante, je suis monté dans le comté de Penobscot avec $500 en cash dans la boîte à gants de ma camionnette. J'ai trouvé M. Gamache assis au bar du Harvest Hotel dans la vieille ville, et il était aussi balèze que Pop l'avait vanté. Plus de 2 mètres à vue de nez et pas moins de 160 kilos. Il a écouté le récit de mes malheurs et après que je lui ai payé une double pinte de Bud, qu'il a descendu en moins de 10 minutes, il m'a dit « Eh bien, Monsieur McCausland, allons faire un tour jusqu'à mon wigwam, un peu plus haut sur la route pour discuter de cette affaire plus en détail. Il pilotait une Harley Softail, qui est une bécane sacrément grosse. Mais quand il est monté dessus, cette machine ressemblait à un de ces petits vélos qu'ont les clowns dans les cirques. Ses fesses descendaient au niveau des sacoches. Parole ! Son wigwam, en définitive, était un joli petit ranch d'un étage avec une piscine derrière pour les mioches, et il en avait une tripotée. Non, Hardell, la moto et la piscine ne sont pas indispensables à l'histoire, mais si tu la veux, tu la prends comme je te l'ai dit. Et moi, je trouve ça intéressant. Il y avait même un home cinéma installé au sous-sol. Bigre de bigre, j'aurais bien emménagé illico. Les feux d'artifice étaient dans son garage sous une bâche, bien rangés dans des caisses en bois. Et il avait des trucs assez bluffants. Si vous vous faites choper avec, il m'a dit, vous avez jamais entendu parler de Howard Gamache. On est bien d'accord. J'ai dit que oui, et comme il avait l'air d'un type assez honnête qui allait pas m'entuber, du moins pas trop, je lui ai demandé ce que je pourrais avoir pour $500. J'ai fini par avoir surtout des compacts, qui sont des ensembles de mortiers avec une seule mèche. Vous allumez, et ils partent les uns à la suite des autres, par dizaines. J'avais trois compacts qui s'appelaient des Pyromonkey, deux autres appelés Déclaration d'indépendance, un autre, Psychedelic, qui explose dans le ciel avec de grandes gerbes de lumière qui ressemblent à des fleurs, et un dernier, extra spécial, je vais y venir. « Vous pensez que ces trucs vont faire taire ces ritales ?» je lui ai demandé. « Et comment ?» a dit Howard. « Seulement, préférant moi-même être appelé Amérindien plutôt que Peau Rouge ou Tomahawk Tom, j'apprécie pas trop les termes péjoratifs du genre rital, métèque, bougnoul ou bronzé. C'est des Américains, tout comme vous et moi, et ça sert à rien de les dénigrer. « J'entends ce que vous me dites, » je lui ai répondu, « et je m'en souviendrai. Mais ces Massimo me tapent quand même sur le système, et si ça vous offense, ben, ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre. Compris, et je peux complètement m'identifier à votre état émotionnel, mais laissez-moi vous donner un conseil, visage pâle. Poussez pas l'accélérateur en rentrant à la maison, vous avez pas envie de vous faire arrêter avec ce bordel à l'arrière de votre caisse. » Quand Maman a vu ce que j'avais acheté, elle a brandi ses deux poings en l'air et nous a servi deux Dirty Hubcaps pour fêter ça. « Ils vont en chier des pièces de 25 cents quand ils vont voir ça », elle a dit. « Peut-être même des dollars en argent. Attends de voir !» Sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'imagine que vous vous en doutez. Arrive le 4 juillet de l'année dernière, le lac Abenaki est chargé jusqu'à la gueule. La rumeur avait circulé, voyez, comme quoi c'était les Yankees McCausland contre les Macaroni Massimo pour le ruban bleu des feux d'artifice. Il devait bien y avoir 600 personnes de notre côté du lac, pas autant de leur côté, mais il y en avait une petite équipe quand même, et plus que jamais auparavant. Tous les Massimo à l'est du Mississippi avaient dû débarquer pour le grand duel de 2014. On s'est pas fatigué à pisser des broquilles genre pétards et bombes cerises cette fois. On a attendu qu'il fasse nuit noire pour tirer la grosse artillerie. Man et moi, on avait nos caisses écrites en caractères chinois empilées sur notre ponton, mais eux aussi. La rive est était bordée de petits Massimo agitant des cierges magiques. On aurait dit des étoiles tombées du ciel, je vous jure. Je me dis parfois que les cierges magiques suffisent, et ce matin, je peux vous dire que je regrette qu'on n'en soit pas resté là. Paul Massimo nous a salués de la main, et on l'a salué de même. L'idiot à la trompette a soufflé un long coup.
« Waouh !»
Paul a pointé son doigt sur moi, comme pour dire « À vous l'honneur, monseigneur !» Alors j'ai tiré un pyromonkey. Ça a illuminé le ciel, et tout le monde a fait « Ah !» Puis un des fils Massimo a allumé quelque chose de similaire, sauf que c'était plus lumineux et que ça a duré plus longtemps. La foule a fait « Oh !» et la putain de trompette a confirmé. Maman m'a dit « Laisse tomber les Funky Monkeys, ou je sais pas comment ces singes-là s'appellent. Passe-moi une déclaration d'indépendance, ça va leur en boucher un coin. » J'ai obtempéré, et c'était d'une beauté du tonnerre. Mais ces foutus Massimo en ont tiré une comme ça aussi. Ils ont tiré tout ce qu'on a tiré. Et à chaque fois, leur truc était plus lumineux et plus bruyant. Et ce trou du cul soufflait un coup de trompette. Maman et moi, on était dans une de ces rages. Merde, il y avait de quoi foutre le pape en rage. La foule a eu droit à un sacré spectacle de pyrotechnie ce soir-là. Probablement aussi bon que celui de Portland. Et je suis sûr qu'ils sont rentrés chez eux contents. Mais sur le ponton de la baie des moustiques, on peut pas dire que c'était la joie. Maman est généralement gaie quand elle est torchée, mais elle l'était pas ce soir-là. Il faisait déjà nuit noire, toutes les étoiles étaient sorties, et une brume de poudre à canon dérivait sur le lac. On en était réduit à notre dernier article, le plus gros. Maman m'a dit, tire-le, et voyons voir s'il peut faire mieux. Il y a des chances, mais s'il souffle encore un coup de sa satanée trompette, c'est ma tête qui va exploser entre mes épaules. Notre dernier article, l'extra spécial, s'appelait The Ghost of Fury, le spectre de la fureur, et Howard Gamache n'avait pas tari d'éloges sur celui-là. Une chose splendide, il m'avait dit, et totalement illégale. Reculez-vous bien après l'avoir allumé, monsieur McCausland, parce qu'il part comme un geyser. La putain de mèche était aussi grosse que mon poignet. Je l'ai allumée et je me suis reculé. Pendant quelques secondes, quand elle a eu fini de brûler, il ne s'est rien passé et j'ai cru que c'était un pétard mouillé. « Eh ben, si c'est pas attacher son chien avec des saucisses, ça, » a dit Mans. « Et maintenant, il va nous foutre un coup de sa saloperie de trompette. » Mais avant qu'il puisse, The Ghost of Fury est parti. D'abord, ça a juste fait une fontaine d'étincelles blanches. Mais ensuite, la fontaine est montée plus haut en virant en rose. Elle a commencé à larguer des fusées qui ont explosé en gerbes d'étoiles. Notre fontaine de feu faisait au moins 4 mètres de haut à présent, et elle était rouge vif. Elle a encore largué des fusées, droit dans le ciel, et elles ont détonné plus fort qu'une escadrille de chasseurs passant le mur du son. Mans s'est couvert les oreilles, mais elle était pliée en deux de rire. La fontaine est retombée, puis elle a craché un dernier coup, comme un vieillard au lupanar, a dit Mans, et envoyé une somptueuse fleur rouge et jaune dans le ciel. Il y a eu un moment de silence, ébahi, vous imaginez, et puis tout le monde sur le lac a applaudi avec frénésie. Ceux qui étaient en camping-car ont donné des coups de klaxon qui ont résonné plutôt petitement après toute cette canonnade. Les Massimo aussi applaudissaient, ce qui montrait qu'ils étaient beaux joueurs. Et ça m'a impressionné, parce que vous savez bien que les gens qui ont besoin de gagner à tous les coups ne le sont pas en général. Le trompettiste, lui, a pas tiré une seule fois son maudit engin de son étui. Mans a gueulé. « On les a eus ! Alden, viens faire un bisou à ta maman !» Je lui ai fait une bise, et quand j'ai regardé de l'autre côté du lac, j'ai vu Paul Massimo planté au bout de son ponton dans la lumière d'une des torches électriques qu'ils avaient là. Il a levé un doigt comme pour dire « Attendez de voir !» Ça m'a mis un mauvais pressentiment au creux de l'estomac. Le fils sans trompette, celui que je jugeais avoir peut-être un soupçon de bon sens, est venu déposer un lance-fusée à ses pieds. Lentement, avec révérence, comme un enfant de cœur qui installe la Sainte Communion. Posé dessus, il y avait la plus grosse putain de fusée que j'ai jamais vue en dehors de Cap Canaveral à la télé. Paul a posé un genou à terre et il a approché son briquet de la mèche. Dès qu'elle a commencé à crépiter, il a attrapé ses deux garçons et les a entraînés en courant, loin du ponton. Il n'y a pas eu de temps d'arrêt, comme avec notre Ghost of Fury. L'enfoiré a décollé comme Apollo 11, en laissant une traînée de feu bleu qui a viré au violet, puis au rouge. Une seconde plus tard, les étoiles se sont effacées derrière un putain d'oiseau géant qui a recouvert pratiquement tout le lac d'une rive à l'autre. Il a flamboyé là-haut avant d'exploser. Et croyez-moi si vous voulez, mais plein de petits oiseaux sont sortis de l'explosion en filant dans tous les sens. La foule était en délire. Les grands garçons là-bas étreignaient leur père en lui donnant des grandes claques dans le dos et en riant. « Rentrons, Alden, » m'a dit Mans. Et depuis la mort de Pa, elle avait jamais paru aussi triste. On est battu. On les aura l'an prochain, j'ai dit, en lui tapotant l'épaule. Non, elle a dit, ces Massimo auront toujours une longueur d'avance. C'est ce genre de gens-là, des gens avec des connexions. Nous, on est juste une paire de pauvres malheureux vivants grâce à l'argent de la chance, et je crois bien qu'on va devoir en rester là. Comme on montait les marches de notre petit bungalow minable, voilà-t-il pas que retentit un coup de trompette final depuis la grande belle maison blanche de l'autre côté du lac. Ça m'a collé mal à la tête, véridique. Howard Gamache m'a dit par la suite que ce dernier feu d'artifice s'appelait le coq de la destinée. Il m'a dit qu'il en avait vu des vidéos sur YouTube, mais toujours avec des gens qui parlaient chinois en bruit de fond. Howard m'a dit « Comment ce monsieur Massimo s'y est pris pour l'introduire dans ce pays reste un mystère pour moi. » C'était un mois plus tard, vers la fin de l'été dernier, quand j'ai fini par trouver assez d'ambition pour faire le trajet jusqu'à son wigwam, à un étage d'Indian Island, pour lui raconter ce qui était arrivé. Comment on avait bien livré bataille, mais quand même été coiffé au poteau à la fin des fins. « C'est pas un mystère pour moi », je lui ai dit. Ses amis en Chine ont dû rajouter le coq en prime à sa dernière expédition d'opium. Vous savez, un petit cadeau pour dire merci de faire du commerce avec nous. « Avez-vous quelque chose de plus puissant que ça, monsieur Gamache ?» Mans est horriblement déprimée. Elle veut pas entrer dans la compétition l'an prochain, mais je me disais que s'il y avait quelque chose, vous savez, le top du top, je serais prêt à payer 1000 dollars. Ça les vaudrait, rien que pour voir ma vieille maman sourire le soir du 4 juillet. Howard était assis sur les marches de sa véranda de derrière, et ses genoux écartés lui faisaient comme deux gros rochers autour des oreilles. De Dieu, quel homme colossal c'était! Et il réfléchissait, cogitait, pesait le pour et le contre. Enfin, il a dit,
« J'ai entendu des rumeurs. »
« Des rumeurs à propos de quoi ?»«
À propos d'un machin spécial qui s'appelle « Rencontre du quatrième type », il me dit. « Je le tiens d'un copain avec qui je corresponds sur les attractions à la poudre à canon. Son nom, Docton, est Sentier Lumineux, mais le plus souvent il se fait appeler Johnny Parker. C'est un Indien, Cayuga. Il habite près d'Albany, état de New York. Je pourrais vous donner son adresse mail, mais il vous répondra pas à moins que je lui passe d'abord un mail pour me porter garant de vous. »
« Vous voulez bien faire ça ?» j'ai demandé.
« Bien sûr qu'il me dit. Mais d'abord, toi devoir payer grande quantité wampum, visage pâle. 50 billets, ça devrait aller. »
L'argent est passé de ma petite main à sa grosse main. Il a envoyé un email à Johnny Sentier Lumineux Parker. Et à mon retour au lac, quand je lui en ai envoyé un moi aussi, il m'a répondu aussitôt. Mais il refusait de parler de ce qu'il appelait le R4T autrement que de vive voix. Il prétendait que le gouvernement lit systématiquement les mails de tous les Amérindiens. J'avais rien à répondre à ça. Je parie que ces jobards lisent les mails de tout le monde. Alors on est tombé d'accord pour se rencontrer, et aux environs du 1er octobre de l'an dernier, je suis monté le voir. Naturellement, Mon a voulu savoir quelle sorte de course j'avais à faire tout au nord de l'état de New York, et je me suis pas fatigué à lui sortir un bobard, parce qu'elle les perce tous à jour depuis que je suis haut comme trois pommes. Elle s'est contentée de secouer la tête. « Vas-y donc, si ça peut te faire plaisir, » elle m'a dit. « Mais tu sais qu'ils riposteront toujours avec quelque chose d'encore plus gros, et on en sera réduit à écouter ce petit branleur d'Italo nous souffler sa trompette au nez. »« Bah, peut-être, » j'ai dit, « mais Monsieur Sentier Lumineux m'a dit que c'était le feu d'artifice qui met fin à tous les feux d'artifice. » Comme vous le voyez, les faits ont prouvé que c'était la pure vérité. J'ai fait bonne route, et Johnny Sentier Lumineux Parker s'est révélé être un type sympathique. Son wigwam était sur Green Island, où les maisons sont presque aussi grandes que les 12 pins des Massimo. Et sa femme vous sert de ses enchiladas, je vous dis que ça. J'en ai mangé 3 avec la sauce verte pimentée qu'ils mettent dessus, et j'ai eu la courante sur le chemin du retour. Mais comme ça fait pas partie de l'histoire, et que je vois Ardell recommencer à s'impatienter, j'en parle pas. Tout ce que je peux dire, c'est « Merci mon Dieu pour les lingettes jetables ». Le R4T serait une commande très spéciale, m'a dit Johnny. Les Chinois n'en fabriquent que 3 ou 4 par an, en Mongolie extérieure ou un endroit comme ça, où il y a de la neige 9 fois par an et où il paraîtrait qu'on élève les bébés avec des louveteaux. Ce genre d'engins explosifs sont en général expédiés à Toronto. J'imagine que je pourrais en commander un et aller le chercher au Canada moi-même. Mais vous devrez me payer mon essence et mon temps. Et si je me fais prendre, il y a de fortes chances que j'atterrisse à Leavenworth comme terroriste. D'où Jésus ? « Je tiens pas à vous attirer des ennuis comme ça, » j'ai dit. « Bon, peut-être que j'exagère un peu, » il m'a dit, « mais le R4T est un sacré artifice, unique au monde. Et si votre copain d'en face fait plus fort, je ne vous rendrai pas votre argent, mais je vous rembourserai le montant de mon bénéfice dans l'affaire. Voilà la garantie que je vous donne. » En plus, Cindy Sentier Lumineux Parker a dit, « Johnny adore l'aventure. Voulez-vous une autre enchalada, Monsieur McCausland ?» J'ai décliné, ce qui m'a probablement évité d'exploser quelque part pendant la traversée du Vermont, et pendant quelque temps, j'ai pour ainsi dire oublié toute l'histoire. Et puis, juste après le nouvel an, on arrive au bout, Ardell. T'es pas contente? Je reçois un coup de téléphone de Johnny. Si vous voulez cet article dont on a parlé l'automne dernier, qu'il me fait, je l'ai, mais ça vous coûtera $2000. J'ai failli m'étrangler. C'est pas donné. Ça, je peux pas vous contredire. Mais voyez les choses sous cet angle. Vous, les Blancs, avez acheté l'île de Manhattan pour $24. Et nous, depuis tout ce temps, on cherche à obtenir des dommagements. Il s'est marré, puis il a dit, « Mais en parlant plus sérieusement, si vous n'en voulez pas, ce n'est pas grave. Peut-être que votre pote d'en face serait intéressé. » « Vous avez pas intérêt, » j'ai dit. Il a rigolé encore plus fort en entendant ça. « Faut que je vous dise, ce truc-là est sacrément impressionnant. J'en ai vendu des feux d'artifice dans ma vie. Mais j'ai jamais rien vu d'approchant. D'approchant comment, j'ai demandé. Qu'est-ce que c'est? Vous verrez par vous-même, il m'a dit. J'ai aucune intention de vous envoyer une photo par mail. En plus, ça ressemble pas à grand-chose tant que c'est pas, en fonctionnement.
Si vous voulez monter jusqu'ici, je pourrais vous montrer une vidéo. »
J'y serai, j'ai dit.
Et deux jours plus tard, j'y étais, à jeun, rasé et peigné.
Maintenant, écoutez-moi vous deux. Je ne vais pas présenter mes excuses pour ce que j'ai fait. Et vous pouvez laisser moi en dehors de ça. C'est moi qui me suis procuré ce satané machin. Et c'est moi qui l'ai mis à feu. Mais je peux vous dire que le R4T que j'ai vu sur la vidéo que Johnny m'a montré et celui que j'ai tiré hier soir, c'était pas les mêmes. Celui de la vidéo était beaucoup plus petit. J'ai même fait la remarque à Johnny, rapport à la taille de la caisse, quand on l'a mise à l'arrière de ma camionnette. Ils ont dû mettre un paquet de rembourrage là-dedans, je lui ai dit. Et Johnny m'a dit, j'imagine qu'il voulait être sûr qu'il lui arrive rien pendant le voyage. Il savait pas non plus, vous voyez. Cindy Sentier Lumineux Parker m'a demandé si je voulais pas au moins ouvrir la caisse pour regarder à l'intérieur, m'assurer que c'était le bon truc. Mais la caisse était solidement cloutée sur tous les côtés. Et je voulais rentrer avant la nuit, à cause de mes yeux qui sont plus aussi bons qu'ils étaient. Mais comme je suis ici aujourd'hui pour vider mon sac, je dois vous dire que c'était pas la vérité. Le soir, c'est l'heure où je bois, et je voulais pas en perdre une seconde. Voilà la vérité. Je sais que c'est pas joli joli, et je sais que je dois faire quelque chose pour ça. J'imagine que si on me met en prison, j'aurai une chance, n'est-ce pas? Man et moi, on a décloué la caisse le lendemain pour regarder ce qu'on avait acheté. Ça, c'était à la maison en ville, vous comprenez, parce que je vous parle de janvier, là, avec un temps plus froid qu'un téton de sorcière. Il y avait bien un peu de matériaux de rembourrage, mais pas autant que j'imaginais. Le R4T faisait bien 2 mètres de circonférence, et il ressemblait à un paquet emballé dans du papier Kraft, sauf que le papier était comme huileux, et tellement lourd qu'il faisait plutôt penser à de la bâche. La mèche dépassait par en bas. Man m'a demandé, « Tu penses qu'il va vraiment décoller ?» Bah, j'ai dit, si le nôtre décolle pas, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Et Man me répond, on y sera de $2000 de notre poche. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, ça serait qu'il décolle 1 ou 2 mètres, et puis qu'il fasse pchit en tombant dans le lac. Et qu'ensuite, ce jeune macaroni qui ressemble à Ben Affleck nous souffle un coup de trompette. On l'a rangé au garage, et il y est resté jusqu'à Memorial Day, où on l'a emporté au lac. J'ai rien acheté d'autre au rayon feu d'artifice cette année, ni à Pop Anderson, ni à Howard Gamache non plus. Cette année, on avait tout misé sur un seul truc. C'était le R4T ou la déculottée. Bien. On en arrive à hier soir, 4 juillet 2015. Jamais rien vu de pareil sur le lac Abenaki, et j'espère que ça n'arrivera plus jamais. On savait que l'été avait été foutrement sec, naturellement qu'on le savait, mais ça nous a jamais traversé l'esprit. Pourquoi ça nous serait venu à l'esprit? On tirait au-dessus de l'eau, non? Qu'est-ce qu'on risquait? Y a rien de plus sûr. Tous les Massimo étaient là à s'amuser, chantant leurs chansons et jouant à leurs jeux, criant leurs saucisses sur au moins 5 barbecues différents et barbotant le long du rivage et plongeant depuis leur ponton. Tous les autres étaient là aussi, sur les 2 rives du lac. Il y en avait même aux pointes nord et sud, où c'est que du marécage. Ils étaient là pour voir l'épisode suivant de la grande course aux armements du 4 juillet, Macaroni contre Yankees. Le crépuscule est tombé, et finalement l'étoile du berger est apparue, comme elle fait toujours. Et les 2 torches électriques au bout du ponton des Massimo se sont allumées comme des projecteurs. Et voilà que Paul Massimo déboule dans la lumière, flanqué de ses 2 fils, et du diable s'ils n'étaient pas habillés comme pour aller danser dans un club à la mode. Le père en smoking, les fils en veste de soirée blanche avec une fleur rouge à la boutonnière. Le sosie de Ben Affleck avec sa trompette portée bas sur la hanche, comme un pistolero. J'ai regardé autour de moi et vu que les bords du lac étaient combles. Il y avait plus de gens que jamais auparavant. Devait bien être 1 millier. Ils étaient venus assister à un spectacle et les Massimo s'étaient habillés pour leur en donner un, tandis que Man portait sa robe tablier de tous les jours et moi un vieux jean et un t-shirt qui disait « Embrasse-moi où ça pue, rendez-vous à Millinocket. » Il a apporté aucune caisse, a dit Man. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai juste secoué la tête parce que j'en savais rien. Notre unique feu d'artifice à nous était déjà installé au bout de notre ponton. Sous une vieille couverture matelassée, il y était depuis le matin. Massimo a tendu la main vers nous, plus poli que jamais, pour nous dire de commencer. J'ai fait non de la tête et tendu moi aussi la main comme pour dire « Non, après vous cette fois-ci, monseigneur. » Il a haussé les épaules et fait un moulinet en l'air avec la main, un peu comme un arbitre qui accorde un coup de circuit. Et à peu près 4 secondes plus tard, la nuit a explosé de gerbes d'étincelles et des feux d'artifice ont commencé à partir au-dessus du lac, en explosions d'étoiles et en geysers, et en salves multiples, qui ont projeté des fleurs et des fontaines, et que sais-je encore. Man s'est étranglé. Oh, le sale chien! Il a embauché toute une équipe d'artificiers, des professionnels! Eh oui, c'était exactement ce qu'il avait fait. Il avait dû dépenser 10 ou 15 000 $ pour ses 20 minutes de spectacle pyrotechnique, avec bouquet final et tout. Double Excalibur, Wolfpack, et j'en passe. La foule autour du lac hurlait de joie et braillait s'en enrouer et donnait des coups de klaxon et lançait des vivas et trépignait. Le sosie de Ben Affleck soufflait dans sa trompette à s'en coller une hémorragie cérébrale, mais on l'entendait même pas avec la débauche de tirs d'artillerie dans le ciel qui était illuminé comme en plein jour et de toutes les couleurs. Des nappes de fumée montaient de la plage où les artificiers faisaient partir leurs explosifs, mais cette fumée ne dérivait pas au-dessus du lac. Elle dérivait vers la maison, vers les 12 pins. Vous pourriez dire que j'aurais pu m'en rendre compte, mais je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Moi non plus. Personne ne s'en est rendu compte. On était trop estomaqué. Massimo nous envoyait un message, voyez, c'est terminé. Pensez même pas vous représenter l'année prochaine, pauvre trou du cul de Yankees. Il y a eu un temps d'arrêt, et j'allais juste en conclure qu'il avait fini de balancer sa purée, quand il y a eu un double geyser d'étincelles, et qu'un grand bateau de feu, avec voile et tout, a rempli le ciel. Je savais par Howard Gamache ce que c'était. Une excellente jonque. C'est le nom d'un bateau chinois. Quand il a fini par s'éteindre et que la foule en délire s'est calmée autour du lac, Massimo a fait signe à ses artificiers une dernière fois et ils ont allumé un drapeau américain sur la plage. Il a flamboyé en rouge, bleu et blanc en projetant des boules de feu dans le ciel pendant que la sono diffusait « America, the beautiful ». Finalement, le drapeau s'est consumé et il n'est resté que des braises oranges. Massimo était toujours au bout de son ponton. Et il a de nouveau levé la main vers nous en souriant, comme pour nous dire « Allez-y, les McCausland, tirez les merdes minables que vous avez là-bas et qu'on en finisse. Pas juste pour cette année, mais pour de bon. » J'ai regardé Man, elle m'a regardé, puis elle a bazardé dans l'eau le fond de son verre. On buvait des Moonquake hier soir, et m'a dit « Vas-y, ça fera sûrement pas beaucoup plus d'effet qu'un trou de pisse dans la neige, mais on a acheté ce foutu machin, autant le tirer. » Je me souviens comme tout était calme. Les grenouilles s'y étaient pas encore remises et les pauvres vieux huards s'étaient fait la malle pour la nuit, peut-être même pour le reste de l'été. Il y avait encore plein de gens debout au bord de l'eau pour voir ce qu'on avait, mais il y en avait beaucoup plus qui repartaient vers la ville, comme font les supporters quand leur équipe se prend une raclée sans la moindre chance de remonter au score. Je pouvais voir tout un cortège de phares le long de Lake Road, la route qui rejoint la Highway 119 et Pretty Beach, qui vous mène ensuite jusqu'à TR-90 et Chester's Mill. J'ai décidé que si je le faisais, autant que ce soit un spectacle aussi. Et si le tir avortait, eh bien, ceux qui restaient pourraient rire autant qu'ils voudraient. J'étais même prêt à supporter cette foutue trompette, sachant que j'aurais plus à l'entendre l'an prochain, parce que j'en avais fini avec ça. Et je voyais bien à sa figure que c'était pareil pour Man. Même ses loloches avaient l'air de baisser la tête. Mais ça, c'était peut-être parce qu'elle avait pas mis son soutien-gorge hier soir. Elle dit qu'il la pince terrible. J'ai retiré la couverture matelassée d'un geste plein de panache, comme un magicien qui fait un tour, dévoilant le paquet carré que j'avais payé 2 000 $, probablement la moitié de ce que Massimo avait payé rien que pour son excellente jonque, tout bien emballé dans son papier lourd comme de la bâche, avec son bout de mèche dépassant par le bas. Je l'ai montré du doigt, puis j'ai montré le ciel. Les 3 Massimo en tenue de soirée sur leur ponton ont rigolé et la trompette a sonné. J'ai allumé la mèche et elle a commencé à crépiter. J'ai attrapé Man et je l'ai tiré en arrière, au cas où ce putain de truc exploserait sur son aire de lancement. La mèche a brûlé jusqu'au papier, puis elle a disparu. La putain de boîte carrée n'a pas bougé. Le Massimo à la trompette a porté son engin à sa bouche, mais avant qu'il ait pu souffler dedans, une traînée de feu a jailli d'en dessous la boîte et elle a décollé, lentement d'abord, puis de plus en plus vite à mesure que d'autres réacteurs, j'imagine que c'était des réacteurs, s'allumaient. De plus en plus haut, 3 mètres, puis 10, puis 15. Je pouvais à peine distinguer la forme carrée contre le ciel étoilé. Elle est montée jusqu'à 20 mètres et tout le monde tendait le cou pour voir. Puis elle a explosé, exactement comme celle de la vidéo YouTube que Johnny Sentier Lumineux Parker m'avait montrée. Mon et moi, on a poussé des hurrahs. Tout le monde a poussé des hurrahs. Les Massimo avaient juste l'air perplexe et peut-être, difficile à dire de là où on était, un peu méprisant. C'était comme s'ils se disaient « Une boîte qui explose, c'est quoi ce bordel ?» Sauf que le R4T avait pas dit son dernier mot. Quand les yeux des gens se sont habitués, on a entendu des hoquets d'émerveillement parce que l'emballage en papier était en train de se dérouler et de se déployer tout en commençant à flamboyer de toutes les couleurs que vous avez jamais vues, et quelques-unes que vous verrez jamais. Il était en train de se transformer en soucoupe volante, nom de Dieu. Elle a grandi, grandi, comme si c'était Dieu qui était en train d'ouvrir son saint parapluie, et à mesure qu'il s'ouvrait, il s'est mis à tirer des boules de feu dans toutes les directions. Chacune explosait et en tirait des nouvelles qui ont formé une sorte d'arc-en-ciel au-dessus de la soucoupe volante. Je sais que vous avez vu des vidéos sur des téléphones portables, probablement que tous ceux qui avaient un portable ont filmé ça, ce qui constituera des preuves à mon procès, mais je peux vous dire qu'il fallait être là pour vraiment apprécier la beauté incroyable du truc. Mom m'a serré le bras et m'a dit « C'est magnifique !» Mais je croyais qu'elle devait faire seulement 2,50 m de diamètre. C'est pas ce que ton ami indien t'a dit ? Oui, c'était ce qu'il avait dit. Mais le truc que j'avais lancé mesurait 10 mètres de diamètre, et il grandissait encore quand il a largué une vingtaine de petits parachutes pour rester en l'air pendant qu'il tirait toujours plus de couleurs et de gerbes et de fontaines et de bombes éblouissantes. C'était peut-être pas aussi grandiose que le spectacle pyrotechnique de Massimo dans son ensemble, mais c'était bien plus grandiose que son excellente jonque. Naturellement, ça venait en dernier. C'est ce que les gens se rappellent toujours, vous croyez pas, ce qu'ils voient en dernier ? Mom voit les Massimo le nez en l'air, leurs mâchoires décrochées comme des portes sur des gonds pétés, l'air des plus gros idiots que la Terre ait jamais porté, et elle se met à danser. La trompette pendouillait dans la main de Ben Affleck comme s'il avait oublié qu'il l'avait. « On les a battus !» Mom m'a crié en agitant les poings. « On a fini par y arriver, Alden. Regarde-les ! Ils sont battus !» Et ça en valait jusqu'au putain de dernier centime. Elle voulait que je danse avec elle, mais j'avais vu quelque chose qui me plaisait pas beaucoup. Le vent était en train de pousser notre soucoupe volante au-dessus du lac, vers l'est, en direction des 12 pins. Paul Massimo aussi l'avait vu, et il m'a montré du doigt, comme pour dire « Tu l'as mise là-haut, tu te charges de la faire redescendre tant qu'elle est encore au-dessus de l'eau. » Sauf que je pouvais pas, naturellement. Et pendant ce temps, le foutu truc continuait à balancer sa purée, tirant des fusées, des canonnades et des fontaines tourbillonnantes comme s'il allait jamais s'arrêter. Et puis d'un coup, j'avais aucune idée que ça allait arriver parce que la vidéo que Johnny Sentier Lumineux m'avait montrée était silencieuse. Il s'est mis à jouer de la musique. Juste 5 notes, toujours les mêmes. Doudi-dou-dam-di. C'était la musique du vaisseau spatial dans Rencontre du troisième type. Et donc il continue sa petite chanson et c'est là que la foutue soucoupe volante a pris feu. Je sais pas si c'était un accident ou si c'était prévu pour l'effet final. Les parachutes qui la tenaient en l'air ont pris feu aussi, et cette pute de truc a commencé à plonger. D'abord, j'ai cru qu'elle allait tomber dans le lac, peut-être même sur le ponton flottant des Massimo, ce qui aurait été vilain, mais pas pire. Sauf que juste à ce moment-là, une plus forte bourrasque de vent a soufflé, comme si Mère Nature elle-même était fatiguée des Massimo. Ou peut-être que c'était juste cette putain de trompette qui la tanait. Vous savez d'où leur propriété tire son nom, et ces 12 pins étaient fichtrement secs. Il y en avait 2 de chaque côté du long porche de derrière, et c'est dans ces 2-là que notre soucoupe volante s'est écrasée. Ces arbres-là se sont aussitôt embrasés, ils ressemblaient un peu aux torches électriques au bout du ponton des Massimo, mais en plus gros. D'abord les aiguilles, puis les branches, puis le tronc. Les Massimo se sont mis à courir dans tous les sens comme des fourmis quand on donne un coup de pied dans leur fourmilière. Une branche enflammée est tombée sur le toit de leur porche, et ça n'a pas traîné, le porche aussi s'est joyeusement mis à flamber. Et pendant tout ce temps, la petite ritournelle continuait. Doudi-dou-dam-di. Le vaisseau spatial s'est cassé en 2. Une moitié est tombée sur la pelouse, ce qui était pas si mal, mais l'autre moitié a continué à flotter au-dessus du toit principal, en tirant quelques dernières fusées, dont l'une a fracassé une des fenêtres à l'étage, en mettant le feu au rideau au passage. Mon s'est tourné vers moi et m'a dit « Ben ça... » « C'est pas bon. »« Non, j'ai dit. C'est même plutôt vilain, tu crois pas ?»« Je crois que tu ferais mieux d'appeler les pompiers, Alden. »« En fait, je crois que tu ferais bien d'en appeler 2 ou 3 brigades, sans quoi il va y avoir des bois carbonisés depuis le lac jusqu'à la frontière du comté. »« Je me suis retourné pour courir au bungalow chercher mon téléphone portable, mais elle m'a attrapé par le bras. Elle avait un drôle de petit sourire sur le visage. « Avant d'y aller, elle m'a dit, « Vise un peu ça. » Elle a pointé le doigt vers l'autre côté du lac. À ce moment-là, la maison tout entière était en feu, donc c'était facile de voir ce qu'elle me montrait. Il n'y avait plus personne sur leur ponton, mais quelque chose y avait été abandonné. La satanée trompette. « Dis-leur que tout ça, c'était mon idée, » m'a dit maman. « J'irai en prison, mais je m'en fous. Au moins, on aura fait taire cette saloperie de clairon. »
Dit Ardel, « je pourrais avoir un verre d'eau. Je suis plus desséché qu'une vieille chips. »
L'officier de police Benoît apporta un verre d'eau à Alden. Andy Clutterbuck et elle le regardèrent le vider. Un type grand et maigre, en pantalon chino et tricot de corps style débardeur, cheveux clairsemés et grisonnants, visage hagard dû au manque de sommeil et à l'ingestion des moonquakes à 30 degrés de la veille.
« Au moins, personne n'a été blessé, » dit Alden. « Je suis content de ça. Et on n'a pas déclenché un feu de forêt. Ça aussi, j'en suis content. »«
T'as de la chance que le vent soit tombé, » dit Andy. « T'as aussi de la chance que les camions de pompiers des trois villes environnantes aient été à proximité, » ajouta Ardel. « Bien sûr, il faut qu'ils y soient les soirs de 4 juillet, parce qu'il y a toujours des crétins pour tirer des feux d'artifice imbibés. »
« J'en assume toute la responsabilité, » dit Alden. « Je veux juste que vous compreniez ça. J'ai acheté ce foutu machin et je l'ai allumé. M'en a rien à voir là-dedans. » Il s'interrompit. « J'espère juste que Massimo le comprendra et la laissera tranquille. Il a des connexions, vous savez. »
Clutterbuck répondit. « Cette famille vient passer l'été sur le lac Abenaki depuis 20 ans ou plus, et d'après tout ce que je sais, Paul Massimo est un homme d'affaires tout ce qu'il y a de légal. »
« Ouais, dit Alden, tout comme Al Capone. »
L'officier de police Ellis toqua à la vitre de la salle d'interrogatoire, montra Andy du doigt, fit le geste de téléphoner avec le pouce et le petit doigt écarté, et lui signifia de venir. Andy soupira et quitta la pièce. Ardel Benoît avait les yeux fixés sur Alden. « J'en ai vu des conneries de première classe dans ma vie, dit-elle, et encore plus depuis que je suis chez les flics, mais cela remporte le pompon. »
« Je sais, » dit Alden en baissant la tête. « J'ai aucune excuse. »
Puis son visage s'éclaira. « Mais ça a été un fameux spectacle le temps que ça a duré. Les gens l'oublieront jamais. » Ardel émit du bout des lèvres un bruit trivial. Quelque part, au loin, une sirène hurla. Andy finit par revenir et s'assit. Il ne dit rien d'abord, se contentant de regarder dans le vide.
« C'était au sujet de Mans ?» demanda Alden.
« C'était à Mans. » dit Andy. Elle voulait te parler, et quand je lui ai dit que tu étais occupé, elle m'a demandé si je pouvais te faire passer un message. Elle appelait du Lucky's Diner, où elle venait juste de finir de partager un gentil brunch avec votre voisin de l'autre côté du lac. Elle te fait dire qu'il portait encore son smoking de la veille et que c'était lui qui régalait.
« Est-ce qu'il l'a menacé ?» s'écria Alden. « Est-ce que ce salopard ?»
« Rassieds-toi, Alden. Calme-toi. »
Alden, qui s'était à moitié levé de sa chaise, se rassit lentement. Mais il avait les poings serrés. C'étaient de grandes mains et elles avaient l'air capables de causer des dégâts si leur propriétaire se sentait provoqué.
« Harley m'a aussi chargé de te dire que M. Massimo a décidé de ne pas porter plainte. Il a dit que deux familles s'étaient lancées dans une compétition stupide et que par conséquent, les deux familles étaient fautives. Ta mère dit que M. Massimo veut tourner la page. »
La pomme d'Adam d'Ordon monta et descendit, rappelant à Ardel un jouet qu'elle avait eu enfant. Un singe montant et descendant un piquet. Andy se pencha en avant. Il avait le sourire un peu forcé de celui qui essaie de se retenir de rire.
« Elle te fait dire que M. Massimo veut aussi que tu saches qu'il est désolé de ce qui est arrivé avec le reste de tes feux d'artifice. »«
Le reste de mes feux d'artifice ? Mais je vous ai dit qu'on n'avait rien d'autre cette année que le « tais-toi quand je parle ». Je ne veux oublier aucune partie du message. »
Alden se tut. Dehors, ils entendirent une deuxième sirène, puis une troisième.
Ceux qui étaient dans la cuisine, ces feux d'artifice-là, ta mère a dit que tu avais dû les poser trop près de la cuisinière à bois. Tu te souviens d'avoir fait ça?
Je t'enjoins de te souvenir, Alden, parce que j'ai une furieuse envie de tirer le rideau sur cette lamentable farce.
Je présume, peut-être, oui, dit Alden.
Je ne te demanderai même pas pourquoi tu avais ta cuisinière allumée par un soir torride de juillet, parce que, après 30 ans dans la police, je sais que les ivrognes sont capables de se mettre les idées les plus saugrenues en tête,
T'es d'accord avec moi ?
Ben, ouais, admit Alden. Les ivrognes sont imprévisibles, et ces moonquakes sont mortels.
Raison pour laquelle ton bungalow sur le lac Abenaki est en train de partir en fumée.
Tout Jésus sans culotte !
Je ne crois pas que nous puissions imputer cet incendie-là au fils de Dieu, Alden, sans culotte ou pas. Étiez-vous assuré ?
Fichtre, oui, dit Alden.
C'est une bonne idée, l'assurance. J'ai appris ça à la mort de Pa.
Massimo aussi était assuré. Ta mère te fait dire ça aussi. Elle m'a dit qu'ils se sont tous les deux mis d'accord devant des œufs au bacon pour dire que vous êtes quittes. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Ben, sa maison était fichtrement plus grande que notre bungalow. Présumons que sa police d'assurance reflétera la différence.
Indy se leva. Je suppose qu'il y aura une sorte d'audience au tribunal tôt ou tard, mais pour le moment, tu es libre de partir.
Alden les remercia et partit avant qu'ils puissent changer d'avis. Indy et Ardell restèrent assis dans la salle d'interrogatoire à se regarder. Ardell finit par dire
« Où se trouvait Madame McCausland quand l'incendie s'est déclaré ?»
Avant que Massimo ne la gâte de Omar Benedict et de frites maison aux Luckys, elle était ici même, au commissariat, répondit Indy, attendant de savoir si son fils irait devant le juge ou à la prison du comté, espérant que ce serait le tribunal pour qu'elle puisse le faire libérer sous caution. Ellis m'a dit que lorsqu'elle et Massimo sont sortis, il avait passé son bras autour de sa taille, ce qui lui fait une sacrée envergure compte tenu de la corpulence actuelle de la donzelle.
Et qui, selon toi, a mis le feu au bungalow des McCausland?
Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais si j'étais forcé de conjecturer, je dirais que ce sont les fils Massimo, juste avant le lever du soleil. Ils ont mis quelques-uns de leurs feux d'artifice inutilisés près de la cuisinière, carrément dessus, puis ils ont bourré cette vieille Pearl de petits bois pour que ça brûle vite et fort. Pas très différent d'une bombe à retardement quand on y pense.
Merde, dit Ardell.
En résumé, nous avons des ivrognes et des feux d'artifice, ce qui ne fait pas bon ménage, et en conclusion, une main lave l'autre.
Ardell réfléchit un instant, puis arrondit les lèvres et siffla la mélodie à cinq notes du film « Rencontre du troisième type ». Elle essaya de la siffler à nouveau, mais se mit à rire et ne put arrondir les lèvres.
« Pas mal, dit Indy. Et est-ce que tu peux jouer ça à la trompette ?»
En pensant à Marshall Dodge.